L'artiste Louis Beck est président de l'Institut scientifique de recherche paranaturaliste, institut qu'il a lui-même fondé et qui se donne sa propre légitimité. Sa forme de savoir mêle la fiction et le réel. Elle s'appelle l'épistémologie fabulatoire. Avec Willem Flusser, il nous incite à créer d'autres façons de voir la nature, des paranatures. Et ce seraient des natures qui n'utilisent pas les mêmes méthodes que les sciences naturelles. Elles utiliseraient des méthodes parallèles à celles des sciences naturelles, mais avancerait dans d'autres domaines du réel. Dans une leçon d'épistémologie fabulatoire, la numéro 12, Louis Beck rend hommage à son ami Willem Flusser récemment décédé. Nous allons lire une partie de cette leçon d'épistémologie fabulatoire.
Je vais tenter de relater, très rapidement, une énigme hypozoologique que je ne peux plus taire, même si cette relation doit porter atteinte à ma belle réputation de zoosystémicien. Pour le faire de manière précise, je préfère lire ces quelques lignes, mon désarroi actuel risquerait de trahir la réalité des faits. Je ne suis, comme vous le savez, qu'un modeste zoosystémicien qui n'a fait aucun effort pour le devenir, car dès l'âge de 4 ans, j'ai su que je n'allais être qu'un artefact. Les faits qui vont suivre tendent à le prouver. J'ai obtenu avec éclat mon diplôme de zoosystémicien. Ce diplôme m'a été décerné par l'Institut scientifique de recherche paranaturaliste, institut que j'avais pris soin de fonder quelques années plus tôt, et dont je suis le seul diplômé, et apparemment le seul président. Mes maîtres m'avaient pourtant dit que ce diplôme me mettrait à l'abri des mésaventures qui vont suivre. Je profite donc de l'occasion qui m'est donnée ici pour rendre public des événements graves. Voici les faits. Depuis plus de 15 ans, Willem Flusser et moi-même avons entamé un dialogue amical et ininterrompu. Rien d'extraordinaire à cela. Durant des années, nous avons coulé des jours heureux, engoncés dans la confortable et moelleuse complexité de nos propos. Pourtant, un jour, c'était un samedi, je crois, un objet de forme céphalopodique s'est matérialisé tout à coup au centre de notre discussion. Cet objet s'est mis à évoluer dans notre espace d'entre-deux avec une certaine arrogance et une certaine désinvolture qui me font encore frémir. J'ai longtemps pensé que j'avais été le seul à observer les évolutions de ce céphalopode. J'ai même cru qu'il faisait partie de ce type d'hallucination qui ne se produit que quand la pensée atteint de très hauts sommets. Le premier moment de surprise passée, et comme Willem Flusser ne semblait pas affecté par le phénomène, je n'ai pas daigné en parler. Notre propos développait des axes tellement plus profonds et essentiels pour l'avenir du monde. Combien de temps ce céphalopode évolua-t-il dans notre circonstance? Je ne saurais le dire, car ce genre d'organisme a la propriété de devenir translucide par mimétisme, surtout dans le flot cristallin de la pensée. De plus, il est doté de moyens de locomotion multiples et se déplace avec la fulgurante rapidité des flux neuroniques. Il faut reconnaître qu'il n'eut jamais l'outrecuidance de répandre entre nous cette encre noire qui brouille la vue, masque la présence et macule les idées. Plusieurs années s'écoulèrent ainsi dans l'oubli de cet événement. Notre dialogue amical et ininterrompu se poursuivit. Par malheur, un jour, ce moment ne s'effacera jamais de ma mémoire. Willem Flusser me montra triomphalement un texte qu'il venait d'écrire. Ce manuscrit avait pour sujet le Vampyrototis infernalis, un céphalopode évoluant dans les grandes profondeurs des océans. Je me souviens de cette première lecture, lecture toujours difficile, car Willem Flusser, qui parle des nouvelles technologies avec une rare intelligence, emploie une machine à écrire de l'après-guerre. De plus, la version papier pelure et ruban bleu fatigué déstabilisait ma lecture, comme les chromatophores irisés et changeants de la peau du Vampyrototis infernalis. Ses tentacules, par ses ventouses syntaxiques, aspiraient le peu de sens qui me restait. Les images de celui-ci s'imposèrent à mon esprit avec une incroyable force. Je fus convaincu tout à coup qu'il n'avait jamais disparu, qu'il s'était installé entre nous d'une manière constante durant de longues années. Il avait continué à se déplacer et à croître dans la profondeur abyssale de nos concepts, sans que nous nous en doutions, se fortifiant vampiromorphiquement et infernalement de l'énergie de notre pensée, au point d'avoir phagocyté l'esprit de Willem à son insu. Je fus obligé de constater avec effroi que le mien l'était très probablement aussi. Il y a 3 ans maintenant, deux jeunes et fringants éditeurs allemands, en plongeant dans les tiroirs du bureau de Willem Flusser, avec des scaphandres autonomes propres à cette corporation, renflouèrent ce texte et décidèrent, avec une belle insouciance, de l'éditer. Il me fut demandé de présenter certaines facettes de ce Vampyrototis infernalis. Je fus amené, sous domination céphalopodique, à mettre à l'exercice une prolifération cladique. proposant certaines bases d'une éthologie de la prédation chez les vampyromorpha et des aspects morphogénétiques qui en découlent. Ainsi, plusieurs comportements très amicalement prédateurs me furent imposés. La prédation par les pouvoirs fascinatoires des messages bioluminescents, pouvant constituer les éléments d'une teutothéologie. La capture des proies au moyen d'émissions de substances gélatineuses, permettant de les façonner au plan formel, comportemental, social et idéologique, et de viser une approche hypostéréoréomatique. La prédation par des attitudes comportementales séductiformes et par des émissions de phénomènes vibratoires, zoosémiotiques, facilitant la saisie d'un vivant au moyen d'organes spécialisés. La prédation par la constante transformation hypocrisique, provoquant des désarrois et des dérèglements métaboliques chez les proies. Je vis maintenant sous l'emprise du grand doute hypozoologique. Aucun zoosystémicien consciencieux de toute l'histoire, hypocrinoménologie, ne s'est trouvé dans une telle pression épistémologique. Il paraît que le Vampyrototis infernalis, comme tous les autres vampyromorpha d'ailleurs, est une chimérisation émergeant des dessous troublants de l'amitié. Qu'il est la concrétion céphalopodique d'un dialogue. Qu'il est une chimérisation, non de l'assemblage ou du collage occasionnel, mais d'un bien curieux clonage. La présence de trois cœurs, caractéristique de cet organisme, ainsi que la ruse par laquelle il a su avaler sa coquille au cours des siècles pour passer de l'obscurité à la transparence, en donne la preuve. Le zoosystémicien doit en tirer les conséquences. 1. Les céphalopodes, qui constituent la plus grande part de la biomasse dans le monde, serait le produit d'une zoologie mentale et épiphanique élaborée artificiellement, une zoologie colloïdale et fictionnelle de l'interface communicatoire. 2. L'embranchement des céphalopodes serait la matérialisation d'une morphogénétique envahissante et tentaculante, substitut vivant des tentatives désespérées de l'espèce humaine pour purifier idéalement ses comportements relationnels et locutoires. 3. Enfin, le plus grave. Les zoologistes, en considérant les céphalopodes comme des animaux communs et en plaçant leur embranchement dans la classification zoologique, ont donné la preuve évidente qu'ils n'avaient jamais eu d'amis, même parmi les bêtes, et qu'ils ont vécu sans pieuvre d'amitié. Depuis, le zoosystémicien tente d'éviter de tomber dans le piège darwinien de l'authentification classificatoire du zoologisme objectif. Il modélise systématiquement, lui-même, avec vigilance, ses propres bestioles céphalopodique.
L'artiste paranaturaliste Louis Beck enseignait à l'école des Beaux-Arts d'Aix-en-Provence, où il supervisera notamment une grande exposition, Le vivant et l'artificiel, qui explorait tout azimut toutes les facettes de ce couple vivant-artificiel, conçu pour le Festival d'Avignon en 1984, aux Hospices de Saint-Louis. Dans cette exposition, un amoncellement d'objets selon différents modèles scientifiques, biotechnologiques, artistiques se côtoyaient. Il crée un chaos. Ce bruit déstabilise, tout devient vivant et à la fois artificiel. Il paraît que les étudiants des Beaux-Arts n'eurent pas de cours cette année pour se consacrer à ce projet. J'aimerais bien, moi aussi, aujourd'hui, que l'on se repose ces questions avec des étudiants, que l'on monte encore des expositions fouillies, remplies, qui ne seraient pas lisses, dont les clés de lecture ne seraient pas données à l'avance, le programme ne serait pas connu. Faire participer celui qui voit, l'inviter à notre pensée, geste de partager.